croyez pas que les gendarmes soient toujours des gens sérieux. Mais non, mesdames. Mais non, messieurs. En m'en allant à Bergame, l'autre jour vendre mes œufs, j'ai rencontré trois gendarmes, un tout jeune et deux grands vieux. En m'apercevant les lâches, ils m'ont barré le chemin. Le petit frisa sa moustache et m'a prise par les mains. Ne croyez pas que les gendarmes soient toujours des gens sérieux. Mais non, mesdames. Mais non, messieurs.
Le petit c'est... Salut.
Salut, bienvenue dans Terrain Vague.
Terrain Vague, énième édition, énième émission dimanche 4h à Dijon. Aujourd'hui, on revient sur ce qui anime les rues de France et de Navarre depuis, depuis maintenant bientôt une semaine.
Un peu plus d'une semaine même.
Un peu plus d'une semaine.
Ouais, une semaine.
En lien avec la mort de Rémi Fraisse, ce mec qui était à Sivens, là, à lutter contre le projet d'un barrage dans le Tarn.
Et on va parler aujourd'hui en essayant de mettre un peu en perspective ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe en France depuis, les réactions qu'il y a eu, et aussi historiquement les morts qu'il y a pu déjà avoir dans ce type de contestation, en essayant de décrypter un peu comment tout ça se fabrique, voilà, c'est ça.
Tout en mettant ça en lien avec évidemment le fonctionnement de la police et les répressions, les mutilations, les meurtres commis par la police. Alors autant effectivement dans des événements ou des manifestations, des choses qui paraissent les plus visibles, mais bien sûr dans les quartiers, enfin dans les prisons, voilà. Auprès des populations.
Tous les endroits pauvres, qui n'atterrissent pas dans les médias.
Ouais.
Fois-là, ça atterrit dans les médias,
ouais.
Et pas qu'un peu. Ça a été l'actualité pendant toute cette semaine, les gros titres, n'apparaissent partout. Et nous, on voulait revenir là-dessus. Alors peut-être on va pour essayer de situer un peu comment ça s'est passé cette mort. Je vais faire un petit retour sur qu'est-ce qu'est le barrage de Sivens, ouais. Et ce qui est appelé aussi la ZAD du Testet. Donc la ZAD, la zone à défendre, cet acronyme qui vient de Notre-Dame-des-Landes.
Ouais, la lutte autour de.
Qui veut dire au début zone d'aménagement différé.
Ouais.
Et ici, il se trouve que c'est une lutte contre un barrage, donc, qui. C'est un projet de barrage dans une zone humide, la zone humide du Testet, sur le cours du Tescou, donc une petite rivière, ouais. Un affluent de la rivière du Tarn. C'est dans le bassin de la Garonne. Il est contesté, ce barrage, parce qu'il détruirait une zone humide de 13 hectares. Et les opposants parlent aussi de conflits d'intérêts entre la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, qui fera la conception et l'exploitation de ce barrage-là, et le conseil général du Tarn, qui est le maître d'ouvrage. Donc évidemment, il y a des billes qui jouent là-dedans, beaucoup de tours sous, la FNSEA qui prend beaucoup part, parce que ce barrage servirait à quelques gros agriculteurs.
C'est-à-dire à alimenter en eau,
voilà.
C'est un barrage d'alimentation.
D'alimentation, pour d'irrigation,
ouais.
Pour de la maïsiculture, donc des cultures qui sont complètement industrialisées et qui demandent beaucoup d'eau. Alors, une des contestations, c'est aussi que ça servirait à une vingtaine d'agriculteurs,
ouais.
Et un projet qui coûterait des millions et des millions.
C'est 200 millions, un truc comme ça. Enfin,
voilà.
En tout cas, il y a évidemment, alors par les personnes qui travaillent un peu plus la contestation juridique ou la contestation un peu légaliste de la chose, il y a la volonté de dire que cet ouvrage monumental ne bénéficierait effectivement qu'à une minorité de personnes, donc il n'y aurait pas de reconnaissance d'utilité publique. Et d'intérêt général à faire ce barrage pour quelques particuliers, quoi.
Ouais.
Voilà, quelques exploitants en plus agricoles.
Donc ça, c'est sur le côté un peu, on va dire, juridico-administratif.
Ouais.
À côté de ça, ou avec ça, en fait, s'est constitué un collectif qui s'appelle Tant qu'il y aura des bouilles, qui a commencé les occupations sur site en 2013. Donc construction de cabanes, appel à occupation, à venir occuper la zone et à faire des actions sur place et en soutien.
Voilà, de la même manière que ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, d'autres luttes de territoire, quoi. C'est-à-dire occuper un territoire et défendre une autre conception de ce que peut être l'utilisation, la vie et l'occupation d'un lieu, d'un territoire, d'un habitat.
Tout à fait. Et jusqu'à ce grand rassemblement, donc du 25 octobre, alors samedi de la semaine dernière,
voilà, juste une semaine,
qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes, qui a vu dans la nuit du 25 au dimanche 26 la mort de donc un des manifestants. Il s'appelait Rémi Fraisse, il avait 21 ans.
Voilà, alors effectivement, il y a donc des scènes d'affrontement entre les forces de l'ordre qui, a priori, qui gardent pas grand-chose, qui gardent un espace, qui gardent une espèce d'un espace un peu symbolique, puisqu'il n'y a plus de machines.
Les machines ont été enlevées.
Voilà, il y a plus de personnes qui travaillent, etc. etc. Donc il y a l'affrontement un peu classique entre des forces de l'ordre qui gardent une position, qui gardent une position géographique, et des manifestants qui viennent là pour
les faire partir, pour réoccuper, ouais, et pour mettre à mal le projet en lui-même, quoi.
Et alors, il semblerait que... c'est qu'en fait, c'est avéré que c'est pendant cette nuit-là...
Voilà, vers 2 ou 3 heures du matin.
Il y a Rémi Fraisse qui se fait
tuer
par une grenade offensive de la gendarmerie. Donc les grenades offensives, c'est utilisé uniquement par les militaires, les gendarmes en l'occurrence. Voilà, c'est une grenade qui est donc faite pour
disperser, qui doit être utilisée au sol pour disperser en cas, dans ce qu'ils appellent une riposte graduée, être utilisée au dernier moment, au dernier recours. Alors il se trouve qu'on en reparlera, mais d'autres personnes sont déjà mortes de par l'utilisation de ce type de grenade. Mais on voulait revenir aussi sur la parole publique qu'a eu l'État et les responsables de la police au cours de la semaine, et comment les changements de discours ont eu lieu, et comment ça prouve une mise en cause claire de la police dans ce dispositif.
Oui, de l'appareil policier comme étant un appareil meurtrier, quoi.
Voilà,
mais qui tente d'être caché. Alors effectivement, dès le lendemain.
Voilà, le dimanche.
Voilà, le dimanche, il y a un communiqué de je ne sais plus quoi.
Alors le dimanche, le procureur de la République d'Albi prend la parole et dit que les gendarmes ont repéré un corps gisant au sol. Ils font faire une sortie pour rapatrier la personne et la soigner. Alors là, la police vient en aide à quelqu'un
qui a priori serait tombé au sol.
Ils disent que c'est dans les bois, dans l'obscurité.
Ils disent que c'est à 2h du matin, 2-3h du matin qu'ils le remarquent. Donc ça, c'est la première information.
Voilà, première information, sachant qu'il y a aussi l'information qui sort que quelqu'un est mort dans cette manifestation.
Oui.
Alors là, évidemment, c'est la police va au secours de ce manifestant. Il se trouve qu'en début de semaine, le discours change. Officiellement, ils disent que les gendarmes auraient tiré une de ces grenades avant de voir une personne s'écrouler à une cinquantaine de mètres d'eux, et qu'ils auraient pris le temps de prévenir leur hiérarchie pour ensuite aller le chercher. Donc, deuxième version des faits. Et il se trouve qu'une troisième version des faits, celle qui va être retenue comme version officielle, nous dit que les gendarmes mobiles auraient immédiatement porté secours à la victime après avoir tiré. Et que sous les projectiles des manifestants, afin d'emporter son corps et de lui donner les premiers secours, évidemment en vain. Donc on voit que le discours change du tout au tout.
Il y a une transformation évidente entre effectivement le moment où on découvre un corps, et c'est très bizarre, 2h30, 3h du matin, en se baladant dans la forêt, comme on trouve des champignons, et le fait de effectivement tirer sur quelqu'un, voir qui s'écroule, et aller le chercher parce qu'on se rend compte que peut-être
avec,
il est mort.
Avec en parallèle les résultats d'autopsie et les résultats de police scientifique qui disent qu'au final, il y a des traces de TNT, que la TNT est présente dans ce type
dans les grenades explosives,
d'armes,
offensives.
Voilà, et en laissant courir pendant toute la semaine aussi que dans son sac à dos, il y aurait potentiellement des choses, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à retrouver le sac à dos,
etc., qui aurait explosé.
Voilà.
Mais même en disant aussi que la police scientifique n'a pas eu accès au terrain pour venir expertiser. Enfin, donc, voilà, il y a toute une construction du discours effectivement médiatique, politicien et policier qui tend à dès le début de la mort à dédouaner la police. Quoi. Et c'est-à-dire effectivement ça passe donc par ce récit des faits, ça passe par le fait de cacher les véritables résultats. Enfin voilà, qui sont connus d'ailleurs le 30 octobre, vendredi dernier là, avec la que c'est bien une grenade offensive qui a tué Rémi Fraisse. Une grenade qu'il a pris donc dans le dos et qui se serait effectivement coincée dans son sac à dos et qui aurait explosé à cet endroit-là et qui aurait provoqué sa mort.
Il serait mort sur le
immédiate.
Coup. Immédiate, voilà, tout à fait. Évidemment, ça parle dans les médias, des gens appellent à la bavure. C'est difficile de dire que c'est une bavure parce que c'est déjà arrivé plein de fois et que c'est une grenade qui est officiellement autorisé à être utilisé. Donc, même dans la hiérarchie, pendant tout un temps, dans les médias, on entendait aussi qu'il y allait avoir potentiellement des sanctions contre le gendarme qui aurait lancé cette grenade ou contre le chef de ce gendarme qui aurait lancé cette grenade. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des sanctions, puisque ça a été fait dans le cadre officiel et utilisé de manière comme ils sont censés les utiliser. Simplement que ces armes sont mortelles.
Voilà, alors c'est évidemment... tout l'intérêt de déconstruire le langage autour de l'arme non létale, les usages d'armes pour disperser les foules, maintenir l'ordre, etc., dites non létales.
Mais que ce soit le taser, on a beaucoup d'exemples de morts, que ce soit
le flashball,
en France, aux États-Unis. Le flashball, ce sont des armes qui peuvent tout à fait entraîner la mort.
Et alors, Valls, dès les premiers jours, dit qu'il n'y aura pas d'incrimination des policiers en cause.
Ouais. Alors, sachant qu'ils mettent beaucoup de temps à réagir, l'État met au moins 48 heures à faire la première déclaration. Oui.
Donc lui, il dit
on les sent embêtés, quoi.
Ouais. Lui, Valls, il dit clairement qu'il n'y aura aucune remise en cause de la police et du travail de la police qui sera fait sur cette mort-là. Ça ne servira pas du tout. Hein. Voilà. Et ça, dans le décortiquage de ce discours-là et de ce que ça implique en de non-reconnaissance des violences, des mutilations et des meurtres de la police, voilà, on sent poindre effectivement la manière dont la police existe en France et bien sûr dans n'importe quel pays
dit démocratique.
Ouais, dit démocratique, ouais, effectivement.
On va enchaîner tout à l'heure sur un retour un peu historique sur une autre mort qui a eu lieu et on parlera plus précisément aussi des réactions qu'il y a eu dans la rue en France cette dernière semaine.
Juste avant de clore peut-être ce paragraphe là pour les morts de la police, donc Rémi est mort il y a donc tout juste une semaine, le 26 octobre 2014, et le 27 octobre dernier, donc un jour après la mort de Rémi Fraisse, c'était la commémoration de la date de mort de Ziad et Bouna qui sont morts à Clichy-sous-Bois en 2005 et qui ont mis, en tentant de fuir la police et qui ont mis le feu aux poudres
des années de 2005. Ouais. On écoute Justine avec, sur leur dernier album D plus M moins, avec le titre Les hommes providentiels. Malville, Sivens. On recommence. Je me souviens de cette immense procession sous une pluie morne, des cirés multicolores et, malgré tout, de cet élan qui nous portait vers le site comme un des grands buts de notre jeunesse. Je me souviens de l'hélicoptère blanc du préfet Jeannin qui tournoyait, surveillant tout, recevant et donnant certainement des ordres. Je me souviens du pré auquel les premiers milliers de marcheurs ont accédé, les autres restant bloqués sur d'étroits chemins, résultat d'une habile stratégie militaire. Je me souviens des quelques excités, peu nombreux en vérité, tenant le devant de la scène au bas du pré. Et rapidement, les tirs de grenades à cadence rapide, au bruit, au souffle ou au gaz insupportable. Puis, les fusils passant à l'horizontale. Je me souviens de Manfred Schulz, main arrachée par un de ses projectiles qu'il avait eu l'imprudence de vouloir relancer. Puis de Michel Grandjean, transporté en hâte, hurlant avec son pied déchiqueté. Et du brigadier Touzeau, bras avant explosé par la grenade qu'il allait nous envoyer, mais qu'il avait tardé à lancer. Et bien sûr, je me souviens de mon cher frère Vital, perdu de vue dans le brouillard des lacrymogènes et dont j'ai dû peu après reconnaître le corps à la mairie de Morestel. Je me souviens que l'on ne nous a jamais rendu le ciré qu'il portait, que l'autopsie a conclu à une explosion, sans plus s'avancer, et le procès à un non-lieu. De l'énorme scandale qu'il s'ensuivit, du quasi-mutisme du gouvernement, celui-ci chargeant le médiateur de la République de prononcer quelques mots de condoléances, et même de l'incroyable déploiement policier lors des funérailles de notre frère. Comme si l'ennemi de l'intérieur, voire celui de l'étranger, était encore à craindre. Et puis je me souviens des socialistes montant au créneau, l'occasion étant trop belle d'envoyer des bonnes salves au pouvoir giscardien, mais refusant de s'associer à nous. La famille, pour demander une loi interdisant l'usage d'armes de guerre, dont les grenades offensives, contre une manifestation, on ne sait jamais. C'était il y a bien longtemps, 37 ans, à Crémalville. Aujourd'hui, sur le site de Sivens, le même drame se reproduit à l'identique, tout aussi lamentable. Je ne connais pas Rémi Fraisse, mais imagine très bien ce que sa famille ressent, et dont nous nous sentons soudain si proches. Voilà où mène l'ignorance, voilà le mépris, au plus haut niveau, des questions environnementales et de l'indispensable réflexion de fond collective et démocratique qu'elle impose chaque jour davantage. Les citoyens moyens sont beaucoup plus en avance que leurs élus. Voilà où mènent les vieux réflexes du maintien de l'ordre par la violence d'État et la mise en branle de matériel de guerre contre les manifestants, fussent-ils agités. Voilà où mène l'obsession de la conquête du pouvoir sans vraie réflexion sur ce que l'on en fera. Froncer les sourcils, faire de viriles déclarations et envoyer la troupe n'est toujours pas une politique. Et quel beau message à la destination de la jeunesse, priorité du quinquennat. Depuis Malville et d'autres drames similaires, les socialistes n'ont rien appris, rien compris. Confirmant l'adage désabusé des historiens, la seule chose que l'histoire nous apprend, c'est qu'elle ne nous apprend rien. Ce texte, c'est une tribune qui est parue dans Libération. Elle a été écrite par Paul Michalon, qui est le frère de Vital, Vital Michalon, qui a été tué par une grenade offensive, le même type que celle qui a tué Rémi Fraisse le week-end dernier. C'était dans un contexte à peu près similaire, une manifestation contre, là c'était pas un barrage, c'était une centrale nucléaire. Et c'était en 77 et il est donc décédé à cause du souffle d'une grenade qui lui a explosé les poumons. Voilà, on voulait lire ce texte parce que c'était pour dire que ce qui s'est passé le week-end dernier, ça s'est déjà passé et que ça va potentiellement continuer à se passer dans cette optique de maintien de l'ordre. Que les armes qu'ils utilisent sont faites pour maintenir l'ordre jusqu'à tuer, en fait. Et c'est assez triste de voir que si on manifeste, on se met en danger nos corps, mais aussi on met en danger nos vies. Et voilà.
La question, effectivement, c'est quelle réponse on peut tenter d'apporter à ça, quoi. Quelle réponse on peut essayer de trouver pour continuer à manifester et à manifester de toutes les manières qui soient sans que la police continue à avoir des prises sur nos corps de cette telle manière-là.
Alors, une des choses qui a été dite par le gouvernement, c'était qu'il retirait provisoirement l'usage
des grenades offensives,
pour les
gendarmes.
Ils ne sont pas revenus dessus depuis. Ils l'ont dit quelques jours après la mort, il me semble, dans le milieu de la semaine. On ne sait pas du tout si ça va avoir un effet ou pas et si dans trois semaines, ils vont pouvoir les réutiliser.
Quand bien même, il leur reste tout le reste. Quoi.
Et quand bien même, il leur reste tout le reste. Le taser, les
conneries, voilà. Alors du coup, au vu de...
Pardon. Ah si, oui, non, ouais, je voulais juste te dire aussi, c'est que, comme j'expliquais tout à l'heure, les changements de discours de la police par rapport à la mort de Rémi Fraisse, il s'est passé à peu près exactement la même chose lors de la mort de Vital Michalon, parce que le préfet de l'Isère, René Janin, à l'époque, annonce le décès d'un soi-disant Allemand mort d'une crise cardiaque pendant la manifestation. Ça, c'est la première déclaration. Ensuite, un rapport de police indique que Vital est décédé d'une crise cardiaque. Deuxième rapport, deuxième changement des faits. Et pour enfin arriver à la publication d'un rapport d'autopsie qui montre qu'en fait, il est mort des causes de la déflagration de la grenade. Donc c'est toujours le même système. Si on peut passer et faire croire que ce mort-là, il n'est pas de notre faute, on s'en lave bien les mains et on est content.
Et encore une fois, c'est les seuls morts potentiels qu'ils ont à justifier par l'effet de la police, parce que tous les autres, évidemment, qui sont tués
pas du tout
dans les quartiers, dans les prisons, etc. C'est légitime défense, mais ça, on verra. C'est un des points d'appui du discours de Cazeneuve d'hier soir à la ministre de l'Intérieur qui est intéressant à réfléchir. Mais là, évidemment, donc, au vu de cette mort, au vu de cette espèce de scandale, pour le coup habituel, mais là qui nous saute à la gueule parce que voilà, c'est bien plus simple quand c'est un manifestant. Il y a depuis une semaine des manifestations en France entière pour
commémorer,
continuer à tenter de faire vivre Rémi Fraisse par quelques moyens que ce soit, pour aussi peut-être demander l'interdiction de l'usage de ces armes-là, en tout cas pour dénoncer évidemment encore une fois les mutilations
et la violence policière. Policière,
comme on l'a vu à la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, comme on l'a vu aussi plein d'autres contextes de manifestations à Nantes,
ou descentes dans les quartiers,
Populaires. Chose. Et donc toutes ces manifestations ont abouti notamment à une manifestation qui s'est déroulée, plusieurs manifestations mais qui sont déroulées donc hier, le 1er novembre. Il y avait un appel national à manifester pour Rémi Fraisse et pour dénoncer les violences et les meurtres policiers.
Et aussi, évidemment, en solidarité avec ce qui se passe
avec la ZAD du Testet.
Avec la ZAD du Testet. Et donc, les personnes qui sont encore là-bas, qui d'ailleurs ont rétabli un campement et veulent continuer à se battre là-bas.
Et donc, il y a effectivement des rassemblements dans plusieurs villes, dont Nantes, Toulouse,
Dijon, Lille, et les jours, et dans la semaine qui s'est passée aussi, il y avait même des rassemblements à Lons-le-Saunier,
À Pontivy, Bretagne perdue.
Voilà. Ça peut des fois rappeler un peu ce qui s'était passé autour de Notre-Dame-de-Landes et des comités de soutien locaux, ou même dans des toutes petites villes, des gens se rassemblaient pour discuter de ce qui se passait là-bas.
Et donc là, c'est évidemment des manifestations spontanées dans le sens en réaction à cette mort, et qui prennent de l'ampleur et que le gouvernement tente par tous les moyens de réduire, de faire baisser en intensité, de chercher à ne pas faire exister. Je crois qu'à Nantes et à Rennes et à Toulouse, il y a eu pas mal d'investissements des centres-villes par ces manifestations, avec pas mal de personnes qui, à un moment, ont commis ces actes de révolte qui sont juste d'investir la ville et de manifester sa colère. Et
ont été fortement réprimés directement par les forces de l'ordre.
Il y a eu encore plein de blessés hier, des gens qui ont perdu, je crois, des yeux dans la semaine, des histoires de flashball, etc.
Même sur TF1, le 20h de TF1, on voyait des gens sans... quelque chose qui ne montre pas trop d'habitude des blessés de la police. On voyait au moins une personne qui avait le nez pété à cause d'un coup de matraque et au moins deux, trois autres personnes blessées à cause des éclats, des grenades
de désencerclement.
De désencerclement. Mmh. Donc c'est des grenades qui explosent et qui envoient des éclats de plastique ou de métal. La plupart du temps, les gens se retrouvent avec des bouts de plastique ou de métaux dans les jambes, dans les
partout,
bras,
dans les
corps. Voilà.
Et donc il y a eu plein d'actes de révolte et les centres-villes ont été pas mal submergés. Évidemment,
y compris à Dijon, une manifestation s'est produite dans le centre-ville aussi.
Ouais, qui a pas mal secoué le centre-ville. Alors, il y avait un article ce matin dans le Bien Public. Il semblerait qu'il y avait eu 250 personnes donc, à cette manifestation, que le commissariat municipal donc, qui se trouve à côté du Deep Inside, là, vers Sainte-Anne,
Place des Cordeliers,
ait été attaqué. Donc ça, je crois que c'est un acte en résonance avec la mort de Mika, qui là, pour le coup, est aussi une victime de la police.
Qui était donc un centre de domicile fixe,
ouais, c'est ça.
qui a subi des pressions de la police municipale, qui s'est donné la mort parce qu'il lui a fait croire que son chien était mort en sortant de garde à vue.
Voilà, donc ce commissariat a été assez fortement attaqué, je crois. Je crois que notamment le circuit de la vidéosurveillance avait été coupé par les manifestants, ça c'est les paroles du préfet qui sont rapportées dans l'article du Bien Public. Et il y avait aussi, je crois, les policiers qui se préparaient à une attaque du commissariat central de Dijon, donc place Suquet, qui a pas eu lieu. Voilà. Et donc, dans toutes ces villes, les manifestations ont pris ce caractère-là de manifestations explosives, de révolte et de vengeance vis-à-vis de cette mort et vis-à-vis de ces violences policières.
Il y a d'autres appels qui continuent à courir. Il me semble que même aujourd'hui, des gens se rassemblent sur le lieu de la mort, y compris à l'appel de l'association dont Rémi faisait partie, de défense de l'environnement. On espère qu'il y aura beaucoup de monde et que ce sera un chouette moment de recueillement.
On peut passer de la musique.
Allez.
Pourquoi les innocents sont-ils punis?
Sierra, Tango, Oscar, Mike, Yankee. Comme le prédateur, je ne sors que la nuit.
Cette fois encore, la police est l'ennemi. Je saute la meute, personne ne pieut. ça sent l'émeute, ça commence. La foule crie vengeance, par tous les moyens nécessaires. Réparer l'offense, la ville est quadrillée. Les rues sont barrées, les magasins pillés. Les lascars chirés. Moi j'ai toutes les caractéristiques du mauvais ennemi. Antipathique, sadique, allergique, conflictuelle. Même dans la foule, je porte la cagoule. Les plus jeunes m'écoutent dans l'école de la rue. Je suis leur prof, premier cours. Lancer le cocktail molotov, sans faire de propagande. Abdoulaye nous demande la plus belle des offrandes. Le message est passé. Je dois sacrifier un poulet.
Pas de peine sans que ma vie le paye. Est-ce que tu le sais?
Sacrifier le poulet.
Pas de peine sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Sacrifier le poulet.
Pas de peine sans que ma vie le paye. Est-ce que tu le sais?
Sacrifier le poulet.
Pas de peine sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Dans cette masse qui s'agite, je vis et ça m'excite. Tout crame autour de moi, les pompiers ne viennent pas. Même par la fenêtre, les gamins veulent en être. En maître au CRS, chou qui se lance à l'assaut. Matraque à la main, dans les quarts du vin. Des fourgons blindés, des flics surarmés. Mon putain de quartier, on s'en va territoire occupé. J'engraine, j'engraine à la mauvaise conduite. Certains ne m'écoutent pas et tentent la fuite. Pfff, y'en a qui voltigent. Boum, les gars veulent le prestige. Comme le font les médias, le peuple tu mets pas. Le monde est à moi, je suis dans les chantanas.
Mec, le temps est mystique.
J'ai devant moi tous les flics. Ce soir j'ai pas de fusil, ce soir j'ai pas de fusil. Et monsieur Stone, il laisse la place à Bugsy. Avant de laisser faire mes poules sont meurtrières, j'adresse au tout puissant mes dernières prières.
Mais demande à Dieu de rester vivant.
Et j'appelle le diable pour faire couler le sang.
Pas de peine sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de peine sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de peine sans que Babylone paye. Est-ce que tu le sais?
Sacrifions le poulet.
Pas de peine sans que le poulet repose en paix. Est-ce que tu le sais?
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Alors, de retour dans Terre Vague, et on va essayer d'analyser un peu aussi ce qu'a dit le Premier ministre Cazeneuve.
Non, le ministre de l'Intérieur.
Le ministre de l'Intérieur, pardon, ouais. Excuse-moi. Cazeneuve aux 20h de TF1 hier soir, c'est ça ?
Ouais.
Hier soir.
Ouais, donc il réagit aux manifestations violentes qui ont eu lieu dans chaque ville, voilà, ces gestes de révolte qui ont eu lieu dans plusieurs centres-villes de France hier. Et alors, c'est une intervention de quelques minutes, mais dans laquelle il arrive évidemment à
caser
complètement
beaucoup de choses. Et ouais, à utiliser la nouvelle langue à merveille.
Et à complètement réécrire, donc c'est déjà un peu ce qu'on voit qui est à l'œuvre évidemment dans la réécriture du récit de la mort de Rémi. Et là, donc évidemment, il réinterprète, il endosse la figure de la personne qui défend l'ordre, évidemment, mais qui défend aussi et surtout la justice, le respect, la non-violence, on pourrait dire carrément, enfin, il y a un moment, il utilise ces termes-là. Voilà, donc c'est exactement l'opposé de ce qui se joue.
De ce qui s'est passé.
Ouais, de ce qui s'est passé le week-end dernier, de ce qui se joue depuis des années dans les cités, n'importe où. Enfin, c'est exactement l'opposé de ce qu'est l'État et son bras armé, la police et la gendarmerie. Alors, il commence donc en parlant de cette mort de Rémi Fraisse, qui serait le résultat des violences commises à Sivens par les manifestants.
Il y a eu des violences, et le résultat, c'est qu'il y a un mort.
Ouais. Alors que, quand même, le fait, c'est que c'est les flics qui l'ont tiré.
Ils l'ont tiré sur quelqu'un, et il est mort.
Voilà, il commence comme ça, et en fait, tout le long, c'est évidemment donc cette même construction de langue de bois, et pire que ça, de réécriture et de storytelling, quoi. Donc, les policiers, à un moment, disent... Enfin, voilà, il dit, les policiers sont les défenseurs de l'état de droit. Qu'à un moment, Chazal lui demande, mais quelles étaient les consignes d'hier soir, comment les policiers sont intervenus, etc. Le ministre dit, c'était les mêmes consignes que le week-end dernier. Enfin, c'est quand même plutôt flippant pour les manifestants qui étaient hier dans les rues, parce que...
On comprend pourquoi ils ont appelé à manifester casqués.
Voilà. Donc, il dit, ils ont reçu les mêmes consignes, c'est-à-dire un usage proportionné de la force, céder à aucune provocation, et l'usage de la force quand c'est la seule solution. Ce qui laisse... encore une fois, moi, ça me laisse complètement pantois d'entendre ce genre de choses, parce que, évidemment, l'usage proportionné de la force, voilà, face à Rémi qui s'est pris une grenade offensive dans la tronche, bah, c'est quand même une vaste blague.
C'est une certaine proportion, quoi.
Ouais. Et il continue son discours en déclarant les policiers victimes, en fait, les personnes qui sont... Là, les victimes dans ces manifestations, c'est les policiers. Et il appelle évidemment au calme et à la manifestation pacifique. Et ça, c'est un point intéressant de son discours. C'est que, évidemment, là, le gouvernement, depuis le surgissement d'un des usages habituels de la police, ce violent surgissement de la mort de Rémi Fraisse, le gouvernement joue la carte, évidemment, de la dissociation entre pacifique et casseur, en reconstruisant d'une certaine manière la figure du casseur dans les manifestations. Ça, c'est clairement un discours de guerre psychologique de par l'État et de par son appareil policier, qui est donc de créer un ennemi intérieur, qui est de créer des dissociations entre les personnes...
Qui pourraient s'agglomérer ensemble.
Voilà, les personnes qui pourraient légitimement demander à ce que le droit change, évolue, etc. Et les personnes qui...
s'estiment d'une radicalité plus forte.
Ouais. Et voilà. Et donc, que dit le préfet de Nantes vis-à-vis de la manifestation d'hier, c'est que les casseurs cherchent l'agression face aux flics, et qui, eux, ne font usage que de légitime défense. Et évidemment, c'est ça qui, a priori, semble condamnable, c'est-à-dire que le casseur cherche l'agression, alors que n'importe quelle mutilation, etc., montre bien que l'usage des armes de la police se fait dans le but de mutiler, dans le but, voire jusqu'à de tuer. Et le Premier ministre parle d'exaction. Et exaction, c'est un terme qui est assez fou, parce que, dans son emploi et dans ce qui traduit comment le Premier ministre veut renverser la vapeur, c'est exaction, c'est des violences qui sont faites à l'encontre d'une population.
Ah ouais, c'est la définition du dictionnaire.
C'est la définition d'exaction, ouais. Et on parle de ça quand il y a des envahisseurs, des guerres, des choses comme ça. Mais là, on se rend bien compte qu'évidemment, les violences à l'encontre d'une population, et c'est les personnes qui gèrent cette population, entre guillemets, qui l'administrent,
C'est pour ça qu'on utilise le terme exaction policière. Dans ce sens-là, ça marche. Dans l'autre, moins.
C'est-à-dire que, a priori, les manifestants ne sont pas face à une population. Pour le coup, c'est comme ça que le Premier ministre l'utilise. Et il finit donc en disant que les valeurs de la République ne sont pas des valeurs de violence, mais des valeurs de respect et de concorde.
On a bien senti la non-violence et le respect et la concorde.
Ouais, dans toutes les mutilations.
Dans toutes les mutilations.
Perte d'œil et par flashball, etc. Et enfin, il termine en disant qu'il y a des manifestations qui sont organisées par des organisateurs responsables, c'est-à-dire les organisateurs qui sont dans la peine et le recueillement. Et voilà, ce discours de Cazeneuve, il est on ne peut plus clair sur la manière dont on peut évidemment ne pas voir, ou en tout cas ne pas avoir envie de réfléchir clairement à quel rôle la police et quel rôle le gouvernement a dans ces morts, dans le maintien de l'ordre, comment on maintient de l'ordre, comment on crée du calme et de la paix dans une démocratie occidentale.
Sur ce sujet-là, peut-être on reviendra dans la prochaine émission de Terrain Vague dans Z, qui est une revue, on a déjà parlé plusieurs fois dans Terrain Vague, et il y a un gros dossier sur un historique des morts de la police. On y reviendra sûrement dans la prochaine émission.
Ouais. Voilà pour ce discours de Cazeneuve, donc qui tente de calmer et de réécrire l'usage du monde.
Tu nous mets les Robocop Kraus et avec la chanson So Long As We Dance, We Are Not Dead.
I'm a machine, yeah, wow. 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 I'm a machine, yeah,
Voilà, c'était The Robocop Cross.
Tant que nous dansons, nous ne sommes pas morts, c'est
ça? Tant que nous dansons, nous ne sommes pas morts.
Ouais. Pour finir sur ces discours et ces dégueulasseries de la part des gens qui gouvernent ce pays, ils disent à peu près tous, et de manière univoque, que ces manifestations de révolte là, qui ont lieu dans plein de villes en France, sont des insultes à la mémoire de Rémi Fraisse. Et alors, on voulait rétablir une certaine vérité qui est plutôt que... En fait, c'est tous ces discours-là qui tentent de dédouaner la police et de dire que ce meurtre-là n'est pas un meurtre policier, qui sont des pures insultes à Rémi Fraisse.
Tu voulais nous parler de...
Mathieu
Rigourst.
Ouais,
Mathieu Rigourst, qui est un sociologue, c'est ça?
Ouais,
qui fait beaucoup de travail sur la police, ouais. Le maintien de l'ordre,
ouais.
Tout ce qui tourne autour de ces questions-là. Il a fait plein de bouquins.
Ouais.
Si ce sujet vous intéresse, allez voir ce qu'il fait, parce que c'est vraiment très bien écrit, très bien renseigné, c'est assez chouette.
Et ça permet très clairement de comprendre effectivement les subtilités du rôle de la police dans la gouvernance.
Voilà. Rigourst.
La police sait reconnaître ses maîtres et distribue différents degrés et formes de violence selon la classe, la race et le genre des personnes qu'elle contrôle. Elle a ainsi toujours brutalisé, mutilé et tué certaines parties de la population de la ville capitaliste, misérables, marginaux, prostituées. Elle entretient dans toutes les puissances impérialistes un rapport particulier avec les quartiers et les classes populaires les plus pauvres, avec les parties du prolétariat les plus ségrégées, les plus exploitées, généralement issues de l'immigration ou de la colonisation. Elle est chargée de dominer, bannir et soumettre les couches sociales qui auraient le plus intérêt à se débarrasser de ce système parce qu'elles en bénéficient le moins. Comme tous les crimes policiers dans les quartiers, le meurtre de Rémi n'est pas une bavure, pas un dysfonctionnement, mais bien le produit de mécaniques instituées, de formations rationnelles, de tactiques et de stratégies légitimées et justifiées du haut de l'appareil de l'État jusque dans le geste des exécutants policiers. C'est un meurtre d'État prémédité par la mise en œuvre des structures qui l'ont rendu possible, un assassinat. Voilà ce que lui il dit, parce qu'il prend parole évidemment sur cet événement-là.
Sur les événements.
Voilà ce qu'il en dit, et il dit évidemment plein d'autres choses dans ses bouquins, sur les ennemis antérieurs, sur la police, enfin la formation de l'ABAC, la brigade anticriminalité, voilà toute l'historique de la police. C'est assez intéressant. Je voulais aussi rajouter une dernière chose, c'est que évidemment, ce mort de la police-là, c'était quelque chose quand même qui était en gestation depuis un certain temps dans toute... les prises de pouvoir de la police sur les manifestations, notamment, et que ce qui est étonnant, c'est que ça ne soit pas arrivé avant. Il y a eu de nombreuses mutilations et de nombreux moments, il semblerait, dans les autres luttes comme la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, où
ce scénario aurait pu arriver.
Ouais, et c'est passé à deux doigts de ne pas l'avoir été. Alors là, a priori, à la ZAD du Testet, les flics, les gendarmes ont tiré les enseignements de la manière de gérer et de maintenir l'ordre dans ces zones de manifestation, bocagères, rurales, etc., dans ces ZAD. Et là, il y avait en gestation... Enfin, on sentait bien que la volonté était de plus rapidement possible d'éradiquer toute forme d'occupation, etc., avec n'importe quel moyen utilisé. Voilà, ça conduit évidemment à ce genre de saloperie.
Bon, voilà, on va finir sur ça. C'était une émission un peu triste, parce qu'évidemment, quelqu'un est mort. Mais on a quand même aussi envie de continuer, de rigoler. Et c'était quoi que tu venais nous passer sur la fin là ?
Ah oui, c'était la musique du comité pour le maintien des occupations, qui est une musique marrante. Mais et évidemment, la plus belle manière, je pense, de continuer
de
ces émissions, mais la vie et de faire hommage, c'est évidemment
de
continuer à ouvrir sa gueule et à prendre acte de ces violences policières et du fait qu'il faille qu'elles cessent le plus rapidement possible.
Et ouais.
Entre autres.
On vous dit dans deux semaines. On dit au revoir maintenant.
Ouais, ciao. Et vous pouvez retrouver cette émission sur le site tvnr.noblogs.org. Voilà.
À plus.
À bientôt.
Ciao.
Rue Gay-Lussac, les rebelles n'ont que les voitures à brûler. Que vouliez-vous donc, la belle ? Qu'est-ce donc que vous vouliez ? Des canons à centaines, des fusils par milliers. Dites-moi comment s'appelle ce jeu-là que vous jouiez. La règle en paraît nouvelle. Quel jeu singulier.
Des canons à centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
La révolution, la belle, est le jeu que vous disiez. Elle se joue dans les ruelles, elle se joue grâce aux pavés.
Des canons à centaines.
Le vieux monde et ses séquelles, nous voulons les balayer. Il s'agit d'être cruel, mort aux flics et aux curés.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Ils nous lancent comme grêle, grenades et gaz chlorés. Nous ne trouvons que des pelles, des couteaux pour nous armer.
Des canons.
Pauvres enfants, dit-elle, mes jolis barricadiers, mon cœur en chancelle, je n'ai rien à vous donner.
Des canons par centaines, des fusils par milliers, des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Si j'ai foi dans ma querelle, je ne crains pas les policiers, il faut qu'elles deviennent celles des camarades ouvriers.
Des canons.
Le gaullisme est un bordel, personne n'en peut plus douter. Les bureaucrates aux poubelles, sans eux on aurait gagné.
Des canons par centaines, des fusils par milliers. Des canons, des fusils par centaines et par milliers.
Rue Gay-Lussac, les rebelles.